Les cours du Collège de France, Kyle Harper, cher Avenir commun durable.
Bonjour, merci à tous d'être présents. Nous approchons de la fin. Aujourd'hui, je ferai une conférence sur le petit âge glaciaire. Et après, nous accueillerons notre invité extraordinaire, Ulf Bönken. Vous ne devez pas manquer ce séminaire. Mais tout d'abord, j'ai une très petite publicité. Ce soir, le Collège de France organise un événement qui semble très prometteur et nous vous invitons. Alors, c'est parti. L'11 août 1671, vers 6 heures du soir, Jean-Dominique Cassini remarque quelque chose d'inhabituel à la surface du Soleil. Ce scientifique d'origine italienne est à l'Observatoire de Paris. C'est juste pas là, je pense. Il a vu quelque chose d'inattendu, quelque chose qui n'était pas là quelques jours auparavant. Deux taches sombres sur le Soleil. À l'aide d'un appareil de projection, il observe attentivement leur taille, leur forme et leur position. Il les observe à nouveau le lendemain, puis le surlendemain. À l'aide d'un télescope d'environ 5 mètres, il en dessine les formes et leur relief dans le détail. Ces ombres ont suscité l'intérêt de Cassini, d'autant plus qu'en 1671, les astronomes n'avaient presque jamais observé des taches solaires en l'espace de 20 ans. Ainsi, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Cassini fait part de ses observations à l'Académie des sciences, appelée à l'époque l'Académie royale des sciences. Quelques semaines plus tard, son rapport, accompagné de croquis, est également publié par la Royal Society de Londres, qui s'appelle toujours la Royal Society. C'est grâce à Cassini et à d'autres astronomes du XVIIe siècle que nous disposons d'archives de la variation des taches solaires à partir de cette époque. Depuis des millénaires, l'homme a remarqué des taches sombres sur la surface du Soleil, même à l'œil nu. Mais le télescope déclencha une révolution. L'esprit scientifique de l'époque est caractérisé par l'empirisme, c'est-à-dire la conviction que le réel se mesure par l'observation et l'expérience et n'est pas déterminé par le dogme et l'autorité. Et il a encouragé les observations méticuleuses de Cassini. En fin de compte, l'empirisme allait changer le monde. Ce que les pionniers de l'astronomie de l'époque ne savaient pas, c'est qu'ils traversaient un moment inhabituel dans la vie du Soleil, une période anormale dans l'histoire récente de notre étoile voisine. Les observations de Cassini en 1671 arrivent au beau milieu de ce que nous appelons le minimum de Maunder. Le minimum de Maunder était une période de faible activité de taches solaires et de rayonnement solaire réduit. Comme je l'ai évoqué lors de ma conférence inaugurale, l'ironie du sort fait que cette période coïncide précisément avec le règne de Louis XIV, le roi Soleil. Le minimum de Maunder se situe au cœur du petit âge glaciaire, la phase la plus intense de l'histoire climatique de l'Holocène. Le thème de cette conférence est donc le petit âge glaciaire et la transition au monde moderne. Toutes les études sur l'histoire du climat et de la société n'ont pas d'autre choix que de s'atteler à cette période redoutable. Il s'agit d'une phase déterminante pour connaître l'histoire du climat. Les reconstructions climatiques de cette période sont remarquablement riches, étayées par une abondance de données indirectes ou proxy, ainsi que pour la première fois par des observations instrumentales. Cette phase du passé récent de la Terre représente un tournant dans l'histoire de l'Holocène. En un mot, le petit âge glaciaire a été dur. Il a frappé les sociétés du monde entier. Toutefois, les siècles du petit âge glaciaire, en particulier sa période la plus intense, le long XVIIe siècle, ont également constitué une charnière dans l'histoire universelle. Le monde moderne est né au beau milieu des défis posés par les terribles conditions climatiques de l'époque. Le passage à la modernité est la plus grande révolution de l'histoire de l'espèce humaine. Avant cette transition, les populations étaient en moyenne pauvres, voire très pauvres. toutes les sociétés dépendaient de sources d'énergie naturelles, c'est-à-dire les cultures dépendaient de la lumière du soleil et on procédait à brûler la biomasse vivante. La vie était courte et incertaine. La majorité du temps, on mourait de maladies infectieuses. Les technologies étaient rudimentaires et évoluaient lentement. Le mode de vie était traditionnel, proche de la Terre. Et puis, boum, c'est la libération des humains du cycle malthusien de la pauvreté et de la stagnation. Les énergies fossiles arrivent, d'abord le charbon, puis les hydrocarbures. La croissance, un enrichissement sans précédent, mais aussi les inégalités, la rupture technologique et l'innovation permanente, la destruction créatrice, l'allongement de la durée de vie, le déclin des maladies infectieuses et le règne des maladies chroniques. Cette transition ne s'est pas faite d'un coup. Ses origines sont multiples et profondes, mais ses conséquences sont nettes et claires. Le passage à la modernité marque deux changements fondamentaux dans l'histoire du climat et de la société. Tout d'abord, il y a eu une dissociation du changement climatique et des crises sociales. Comme nous l'avons observé dans mes conférences précédentes, la fréquence et l'ampleur des famines, maladies et, à terme, des guerres ne sont plus fonction du stress climatique. Cela ne s'est pas produit d'un seul coup, ni partout, ce qui a entraîné des conséquences considérables et durables sur les inégalités dans le monde. Ensuite, au cours de la transition vers le monde moderne, l'humanité est devenue un agent de l'évolution géologique. La transition vers la modernité reposant sur l'exploitation d'énergies fossiles a déclenché une croissance démographique, une transformation de l'utilisation des sols, une consommation des ressources à une échelle sans précédent. Aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre en viennent à causer le dysfonctionnement des mécanismes naturels du changement climatique. Nous reviendrons sur cet aspect de la transition la semaine prochaine. Nous examinerons ce que l'on appelle l'époque de l'Anthropocène. Mais aujourd'hui, je tiens à insister sur ces racines profondes au début de l'histoire moderne, au cours du petit âge glaciaire. J'ai commencé cette conférence en évoquant Cassini de manière délibérée. En effet, non seulement ses observations sur le Soleil constituent un élément important pour comprendre l'histoire du rayonnement solaire en tant que facteur du petit âge glaciaire, mais Cassini est en soi un symbole. Sa carrière, son milieu, ses outils, l'Observatoire de Paris, les Académies royales, tout cela reflète la culture de la révolution scientifique. Sa volonté de décrire, de mesurer, de comprendre le monde avec précision, d'utiliser les mathématiques pour maîtriser la nature, tout cela est à l'origine de la croissance moderne. En fin de compte, la force motrice la plus significative de l'histoire de l'humanité est l'accumulation de connaissances sur le milieu qui nous entoure, l'essor du savoir des civilisations. Prenons l'exemple de deux petits âges glaciaires, celui de l'Antiquité tardive au cours du 6e et 7e siècle, et le véritable petit âge glaciaire qui nous intéresse aujourd'hui. À l'époque du petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive, il n'y avait pas d'équivalent de Cassini. Certes, il y avait des scientifiques et des philosophes à l'époque, mais le nombre était minime et en déclin. Il n'y existait pas encore d'institutions comme les académies royales, pas d'instruments comme les télescopes, pas de culture d'empirisme. La comparaison est peut-être grossière, mais cette largeur de vue est essentielle pour comprendre la dynamique de l'histoire. Dans le cas présent, je soutiendrai que la corrélation est en définitive la causalité. La science est le moteur de l'innovation technologique et des pics de croissance. L'expansion humaine à l'époque moderne, la sortie du monde malthusien, caractérisée par la stagnation et la pauvreté, et la fin de l'Ancien Régime, sont enracinées dans la progression du savoir. S'il existe un point de départ unique pour un essor durable, une percée vers la progression continue du savoir, il se situe au cours du petit âge glaciaire. Qu'est-ce que donc le petit âge glaciaire? Le nom lui-même remonte aux années 1930, lorsqu'il a été inventé par le géologue François Mathès. François Mathès travaillait pour le gouvernement américain et parcourait l'Ouest américain. Et je ne peux m'empêcher de rappeler qu'il a été l'un des premiers à cartographier de manière scientifique ma terre natale, le Oklahoma. Oui, chez moi, c'est... Oh non, c'est juste là. Mathis soutenait que les glaciers de l'Amérique du Nord n'étaient pas des vestiges du Pléistocène, mais des phénomènes plus récents, issus des derniers milliers d'années de l'histoire de l'Holocène, qu'il a appelé le Petit Âge glaciaire. Plus tard, dans la seconde moitié du XXe siècle, cette expression évolue et désigne la longue période de refroidissement du dernier millénaire, caractérisée par l'avancée des glaciers dans le monde entier. On pourrait dire que les glaciers ont été les premiers témoins du paléoclimat et qu'ils figurent parmi les témoins les plus fidèles et les plus spectaculaires des changements climatiques à long terme. Alors que les glaciers étant collectivement leur superficie maximale vers 1800, ils fondent depuis lors et de plus en plus vite sous l'influence du réchauffement anthropique. Pour une image saisissante de notre action sur l'évolution du glacier, jetez un coup d'œil à ces deux photos prises au même endroit du glacier inférieur de Grindelwald en Suisse. C'est extraordinaire. Glace, c'est parti. Comme pour d'autres phases informelles de l'histoire de l'Holocène, telles que l'optimum climatique romain, la littérature scientifique n'est pas unanime sur la datation exacte du Petit Âge glaciaire. Certains avancent que le Petit Âge glaciaire a commencé de 1200 et d'autres pas avant 1600. Pour sa fin, on propose 1700, 1800, 1850. Certains ont même considéré que quelques années glaciales dans les années 1950 et 1960 constituaient ces derniers soubresauts, ce qui est plutôt cocasse. Et bien que je ne souhaite vieillir personne, cela signifierait que certains d'entre vous seraient nés à la fin du Petit Âge glaciaire. L'absence du consensus est révélatrice sur la complexité du Petit Âge glaciaire en tant que phase de l'histoire du climat. Le Petit Âge glaciaire a commencé plus tôt et a été plus sévère dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, ce dernier étant protégé par les grands océans qui modèrent les changements climatiques. Le Petit Âge glaciaire s'est caractérisé principalement par des hivers longs et froids, tandis que la projection de sulfate dans la stratosphère par l'action volcanique a pu provoquer des étés anormalement frais de façon temporaire. Le Petit Âge glaciaire n'a pas été une période de froid ininterrompue. Il y a eu des oscillations annuelles, décennales, voire centennales, dans les tendances générales au refroidissement des températures. Et bien sûr, l'hydroclimat a souvent été un élément majeur, en particulier pour les civilisations au climat tropical ou subtropical. En effet, celles-ci dépendent de pluies, de la mousson, et je trouve intéressant l'argument de l'historien John Brooke, selon lequel le Petit Âge glaciaire s'est déroulé en deux phases. Une première, qui chevauche la fin du Moyen Âge et l'aube de la Renaissance, puis un deuxième, qui s'étend des années 1580 jusqu'à 1700 environ. C'est le Petit Âge glaciaire, deuxième partie, que Cassini a vécu et qui constitue une période charnière dans l'histoire universelle. Quelles sont les causes du refroidissement du Petit Âge glaciaire? Le volcanisme et l'activité solaire en sont les principaux ingrédients, bien que leur contribution relative et leurs effets précis fassent l'objet de débats. La première phase du Petit Âge glaciaire a été fracassante, avec l'éruption des volcans Samalas en 1257. Cette identification est elle-même une belle réussite de travail d'équipe entre chercheurs, car Frank Levine et d'autres chercheurs se sont appuyés sur des carottes de glace, la chimie de Tefras, l'étude géophysique du paysage et des sources écrites, dont un ancien manuscrit en javanais, pour mettre en cause le Somalas, qui ils ont appelé le Pompéi de l'Extrême-Orient. Mais l'éruption de Vésuve qui a enseveli Pompéi n'a guère eu des répercussions mondiales, alors que l'éruption de Somalas fut d'une ampleur qu'on peine à imaginer. Il s'agit de l'événement volcanique le plus important de notre ère, de 2000 dernières années. Le refroidissement fut extrême et immédiat, provoquant la famine et la disette sur des vastes étendues du globe. Au cœur du Petit Âge glaciaire, des séries d'éruptions volcaniques ont contribué au faussage du climat. Deux énormes éruptions dans les années 1450 ont déclenché un refroidissement immédiat. L'éruption de 1458, on ne sait pas avec certitude où est-elle produite, est la plus importante après celle de Samalas au cours des deux derniers millénaires. De nombreux documents écrits témoignent des conditions météorologiques extrêmes de la décennie suivante. Cependant, une relative tranquillité s'installe ensuite pendant plus d'un siècle. Il s'agit du hiatus entre la première et la deuxième phase du petit âge glaciaire. Puis, en 1586, l'éruption du volcan Billy Mitchell, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, vient rompre le calme. C'est la première d'une série d'éruptions qui ont contribué à faire entrer le petit âge glaciaire dans sa phase la plus sévère. Le XVIIe siècle a connu une activité volcanique intense, avec de nombreuses éruptions dans les années 1630, 1640 et 1690. Le XVIIIe siècle est à nouveau calme sur le plan volcanique. En d'autres termes, le siècle des Lumières a été une époque où les volcans laissaient briller le soleil. Une nouvelle série d'éruptions au début du XIXe siècle met un point d'exclamation à la fin du petit âge glaciaire. Le plus important a été l'éruption du Tambora en 1815. Il s'agit de l'éruption la plus importante du siècle dernier. Il est possible de connaître ses effets planétaires à un niveau de détail sans précédent. L'année 1816 a été une année sans été, et bien qu'il n'ait pas compris la cause volcanique du refroidissement, tous les peuples ont pris acte de ses conséquences. Elle inspira le romantique anglais Lord Byron, qui écrivit son poème sans doute le plus sombre, intitulé Darkness, les ténèbres. Voici le premier vers. I had a dream, which was not all a dream. The bright sun was extinguished, and the stars did wander darkling in the eternal space, rayless and pathless, and the icy earth swung blind and blackening in the moonless air. C'est pas mal, la poésie anglaise. Hein? Voilà pour les volcans. Il se peut que le déclin de l'activité solaire ait également joué un rôle important, peut-être le principal, dans le déclenchement du petit âge glaciaire. Les astronomes du XVIIe siècle, comme Cassini, ont laissé un enregistrement plus ou moins continu des taches solaires. Une tache solaire est tout simplement une tache sombre à la surface du Soleil. Je dois laisser à mes collègues astrophysiciens le soin d'expliquer en détail le processus des dynamos solaires. Mais la tache solaire est essentiellement causée par un champ magnétique extrême qui inhibe la convection. Les taches solaires correspondent à un rayonnement solaire plus élevé. Grosso modo, plus il y a de taches, plus il y a d'énergie. Par ailleurs, le nombre de taches solaires visibles à la surface fluctue. La manifestation la plus connue est le cycle de 11 ans des taches solaires, une oscillation prononcée et régulière du nombre de taches solaires avec une périodicité de 11 ans. Toutefois, le nombre de taches solaires a également varié de manière irrégulière sur des périodes plus longues. Au 19e siècle, des astronomes comme Edward Wolff, Gustav Sporer et Edward Maunder ont réalisé la première reconstruction au long terme de l'activité des taches solaires et ont remarqué une très forte réduction de leur nombre au cours de ce que nous appelons aujourd'hui le petit âge glaciaire. Mais ce n'est qu'en 1976 que l'astronome américain John Eddy a publié un article dans le Review Science qui attire l'attention sur cette variabilité à long terme. Entre-temps, des reconstructions de l'activité solaire par approximation sont venues compléter les observations humaines, nous permettant de remonter plus loin dans le passé. Si l'on admet que le petit âge glaciaire s'étend de 1250 à 1850, il comprend quatre périodes de très faible activité solaire, appelées Grand Minima solaires. Le minimum de Wolf, de 1280 à 1350, a probablement déclenché les conditions climatiques qui ont marqué le début du petit âge glaciaire et les crises qui ont conduit à la peste noire. Le minimum de Sporer a été une phase prolongée de faible activité solaire depuis le milieu du XVe siècle jusqu'au milieu du XVIe siècle. Le minimum de Maunder, le plus sévère de tous, coïncide lui aussi parfaitement avec le règne de Louis XIV. Puis, au XVIIIe siècle, l'activité solaire est à nouveau élevée. Ainsi, au siècle de lumière, le soleil brillait et les volcans laissaient les ciels dégagés. Enfin, au début du XIXe siècle, il y a eu un bref et quatrième minimum, connu sous le nom de minimum de Dalton. Le petit âge glaciaire a été provoqué par l'association des effets de ces deux mécanismes de forçage gigantesques, ainsi que par leur interaction avec le système terrestre. Je me dois de rester concis, mais il convient de souligner que les changements climatiques de jadis n'est pas uniquement le fait d'un soleil qui chancelait et des volcans qui fulminaient. Au contraire, il fut marqué par l'interaction de ces facteurs entre eux, ainsi qu'avec les océans et l'atmosphère, avec les courants de vent et d'eau, et avec la couverture terrestre. Par exemple, la thèse que la rétroaction glace-albédo est fortement jouée sur le refroidissement du petit âge glaciaire revient souvent. Le déclin de l'activité solaire ou les éruptions volcaniques ont causé un refroidissement rapide qui, lui, a entraîné la formation d'une plus grande quantité de glace dans les eaux arctiques. À son tour, cette glace blanche a réfléchi plus de lumière solaire loin de la Terre, ce qui a exacerbé le refroidissement. Il convient également d'évoquer brièvement encore une fois une théorie importante sur les changements climatiques de l'Holocène, même si elle ne fait pas l'unanimité. En 2003, le paléoclimatologue William Rudman a avancé la thèse que l'influence que l'homme a exercée sur le climat n'a pas commencé avec la révolution industrielle, mais avec la révolution agricole. Ce postulat est désormais connu sous le nom de l'hypothèse de l'Anthropocène précoce, the early Anthropocene hypothesis. Il y a environ 8000 ans, le développement de l'agriculture a entraîné des profonds changements dans l'utilisation des sols. On défricha les forêts pour faire place à l'agriculture. La civilisation a été néfaste à la survie des arbres depuis le début. Il suffit de penser à l'épopée de Gilgamesh, une des œuvres littéraires les plus anciennes de l'humanité, dans laquelle les personnages principaux abattent une forêt. Un ensemble des données paléo-environnementales confirme ce constat. Rappelons que les arbres séquestrent bien plus de carbone que l'herbe des prairies. La combustion des arbres libère de CO2, tandis que le bétail émet du méthane. Selon Rudman et ses disciples, l'humanité altère le système terrestre depuis des milliers d'années. L'agriculture explique la lente augmentation de CO2 au cours des derniers milliers d'années. Ce gaz à effet de serre aurait empêché la fin de l'interglaciaire de l'Holocène. L'hypothèse de l'Anthropocène précoce a des implications intéressantes dans le cadre du petit âge glaciaire. On observe une chute de CO2 à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. Quelle est la cause de ces chutes? Peut-être la réforestation par le considérable dépeuplement des Amériques qui a suivi l'arrivée des Européens. La traversée de l'Atlantique a réuni l'Ancien et le Nouveau Monde. Cet échange a eu un effet dévastateur sur les habitants des Amériques. Les épidémies ont entraîné une grande surmortalité, s'accompagnant d'un bilan humain inconcevable qui, selon certaines estimations, s'est élevé à 90% de l'ensemble de la population. La mort massive chez ces populations a permis aux forêts de repousser, ce qui constitue probablement la plus grande réapparition des forêts depuis plusieurs milliers d'années. Les arbres ont séquestré d'énormes quantités de carbone, ce qui a contribué au refroidissement. Vu sous cet angle, le petit âge glaciaire est en partie d'origine anthropique. Bien que cette théorie ne soit pas largement acceptée, elle reste une possibilité qui pourrait bien gagner en crédibilité ou non grâce au progrès de la recherche. En résumé, le petit âge glaciaire a été causé par l'interaction des variations solaires et des sulfates volcaniques, des rétroactions telles que l'effet albédo de la glace et la dynamique océan-atmosphère, et peut-être même par une réforestation temporaire. Les résultats sont sans équivoque. Contrairement à l'étude du climat du premier millénaire, l'étude du petit âge glaciaire est étayée par un très grand nombre de proxys climatiques qui représentent une véritable mine d'or. Les archives naturelles, telles que les cernes des arbres et les carottes marines qui couvrent les derniers millénaires, sont beaucoup plus nombreuses. De plus, à partir du milieu du XVIIe siècle, après l'invention du thermomètre, on dispose de premiers relevés instrumentaux. Par exemple, c'est un contemporain de Cassini, le scientifique Ismaël Beaulieu, qui a enregistré la première série de températures pour Paris pendant l'année 1658. À ces premières observations instrumentales viennent s'ajouter un grand nombre de témoignages importants sur le météo et le climat au début de l'ère moderne. La climatologie historique, dont Laura Ladurie et Christian Pfister ont été les pionniers, consiste à utiliser des sources humaines comme preuve directe et indirecte de la variabilité du changement climatique. la climatologie historique a beaucoup contribué à l'étude du petit âge glaciaire. Pfister a ouvert la voie à l'exploitation systématique des observations météorologiques réalisées par l'homme et à leur traduction en une série chronologique cohérente. Cette méthode est importante notamment parce que la majorité des indicateurs climatiques naturels tendent à privilégier la saison chaude. Les arbres poussent du printemps à l'automne, par exemple, et restent muets sur le climat hivernal. Mais les témoignages humains peuvent combler cette lacune. Je souhaite résumer certaines des recherches remarquables effectuées par les dernières générations d'historiens sur les effets du petit âge glaciaire sur les sociétés du monde entier. Leurs travaux nous permettent de mettre en exergue l'importance du changement climatique sur les sociétés complexes et de souligner qu'il y a eu des effets différents en fonction des sociétés. Je voudrais également faire valoir que malgré cette hétérogénéité, nous pouvons identifier certaines tendances clés. Grosso modo, une différence entre le phénomène du XVIIe et celui du XVIIIe siècle, ce que nous pouvons appeler les grandes dissociations. Nous avons déjà évoqué cette idée dans chacune de nos trois conférences thématiques, d'abord dans le contexte de la famine, puis dans celui de pandémie, et enfin dans celui de conflits armés. Pendant le petit âge glaciaire, le changement climatique a été l'une des premières causes des catastrophes. Les grandes famines de l'histoire européenne des 17 entraînant une mort massive ont été déclenchées par un changement climatique brutal. Ce fut également le cas des grandes famines de l'histoire de la Chine, bien que la chronologie soit légèrement différente. En revanche, on constate une réelle rupture, une dissociation notable en Europe occidentale des 1700. Comme nous l'avons vu, les terribles souffrances des années 1690 en France ont marqué la fin d'une époque. Il y a eu de graves pénuries par la suite, bien sûr, mais plus jamais de morts massives, comme jadis. Nous avons observé une tendance semblable dans l'histoire du climat et des maladies pandémiques. Il y a eu un lien étroit entre le changement climatique et la mortalité catastrophique tout au long du petit âge glaciaire. Le stress climatique pouvait déclencher ou amplifier des épidémies. Lors des grandes épidémies de peste bubonique, par exemple, le climat a pu jouer un double rôle. D'une part, il a influé sur les écosystèmes où la bactérie de la peste a pu se déplacer des autres rongeurs sauvages vers le milieu humain. Et d'autre part, le climat a affaibli les populations par la 17, les rendant plus vulnérables aux infections et leurs conséquences graves sur la santé. Mais au XVIIIe siècle, ce lien s'est à nouveau affaibli. Les sociétés d'Europe occidentale entrent dans la première phase de la transition épidémiologique, en général caractérisée par le déclin de la mortalité causée par des crises. Et enfin, la guerre. Le cas de conflit est le plus complexe, car la violence collective fait intervenir de nombreux facteurs humains. Mais, même dans ce cas, on dispose de solides fondements empiriques fondé sur une analyse quantitative qui indique que le lien entre le changement climatique et les conflits passe à zéro en Europe. L'adversité du petit âge glaciaire ne laissait guère entrevoir un avenir de cette nature. Au contraire, le petit âge glaciaire a été la période la plus froide de l'Holocène et à l'échelle mondiale, il s'agit probablement du chapitre le plus éprouvant de toute l'histoire des épreuves environnementales de l'Holocène. La dernière génération d'historiens a étudié les rapports entre la crise climatique et la crise sociale de cette période. Ils ont cherché des moyens d'établir un équilibre entre les facteurs humains naturels et les facteurs humains. Il en résulte un riche corpus de recherches qui ne laisse guère de doute sur l'importance du changement climatique, même si c'est de différentes manières, à différentes époques et dans différents endroits. Dans cette tradition, il convient de mentionner avec admiration l'érudition de Jeffrey Parker. Son grand œuvre, Global Crisis, est une réalisation colossale du travail d'historien. Il s'agit d'une visite panoramique du monde en cette période troublée de l'histoire, se fondant sur des sources écrites issues de plus d'une douzaine de régions du monde. Il y met le caractère singulier et imprévisible de l'expérience humaine dans des cultures aussi variées à une perception aiguë des tendances communes et de forces planétaires. Il ne fait guère de doute que les effets de la violence, de la peste et du climat ont constitué ce que Parker appelait une synergie fatale. Nous n'examinerons que quelques régions en proposant au passage une liste de lecteurs recommandés. Commençons par la Chine. La crise de la fin du Moyen-Âge, ici, a commencé environ un siècle plus tôt qu'en Europe, avec la guerre, la peste et la disparition massive des populations au XIIe et XIIIe siècle. La reprise a également commencé plus tôt. La dynastie Ming a duré de 1368 à 1644. La Chine de Ming était la civilisation la plus grande et la plus complexe de la planète à l'époque. Les Ming étendaient leur puissance de l'Asie centrale jusqu'au Pacifique et étaient centrés sur les deux grandes vallées fluviales, très différents pour leur écologie et leur climat, l'économie du nord dépendant du blé et du millet, celle du sud du riz. Il est certain que vers 1400, la Chine aurait semblé être l'endroit le plus propice à une croissance économique permettant le passage à l'ère moderne. Les régions centrales densément peuplées du Yangtze inférieur étaient plus riches que les régions les plus développées de l'Europe de l'époque, comme l'Italie du Nord. La Chine de Ming était fortement urbanisée. C'est l'époque où l'on construit la Grande Muraille. La Chine est la plus grande puissance commerciale et navale, ce qui reflète le périple de l'admiral Zheng Ziyi dans les années 1420. Les turbulences climatiques du milieu du XVe siècle, associées au grand minimum solaire de Sporer et aux éruptions volcaniques, ont ébranlé la dynastie Ming. Le régime a vacillé, famine, insurrection et invasion, mais il a perduré. Les développements répondent au XVIe siècle. Entre 1350 et 1600, la population est multipliée par deux. La pression démographique a certainement créé les conditions propices au déclenchement d'une catastrophe par les changements climatiques. Pour les événements historiques qui suivront, je vous recommande vivement le récit récent de Timothy Brook, The Price of Collapse, The Little Ice Age and the Fall of Ming China, notamment parce que ce livre est issu de conférences données il y a plusieurs années au Collège de France. Les recherches de Brook sont basées sur l'étude de quelques 3000 gazettes, qui sont des archives de registres provinciaux régorgeant d'informations locales sur les histoires politiques, administratives et économiques. Il a étudié près de 800 rapports sur les prix de céréales au cœur de pénuries alimentaires. Les crises alimentaires sont très sporadiques pendant les premières décennies de la dynastie Ming. Les choses changent au milieu du XVe siècle, avec plus de témoignages sur la famine que dans les décennies précédentes réunies. Puis, la pénurie alimentaire apparaît par intermittence au cœur des siècles suivants. Les années 1580 marquent un nouveau pic dans les crises. Brook donne un visage humain à cette souffrance en citant les paroles de Cheng Chida, un instituteur local, qui était enfant à l'époque. Il écrit « Les prix des céréales a grimpé en flèche et resté élevé pendant des mois. On ne voyait plus un brin d'herbe dans les champs, ni d'écorce sur les arbres. Les réfugiés déferlaient sur les routes et les cadavres jonchaient les rues. » Mais à partir des années 1620, une nouvelle phase de catastrophe s'amorce. Après l'année 1627, date de l'accession au trône de l'empereur Shenzhen, on dénombre 21 années consécutives de 17 et de famine. Les souffrances atteignent leur paroxysme au début des années 1640. Selon Brook, aucune autre période des Ming et probablement aucune autre période de l'histoire chinoise n'a connu une catastrophe d'une telle ampleur. Ces années où la famine sévissait ont été exceptionnellement froides, en particulier dans les années 1640. La sécheresse succédait aux inondations d'une année à l'autre. La faim et les migrations ont inévitablement provoqué une crise sanitaire. Dans les années 1640, en Chine, il semble que la peste bubonique accompagnait les souches virulentes de la variole moderne. Selon une gazette, en 1643, une grande épidémie s'est déclarée. Sur plusieurs milliers de kilomètres, au nord et au nord jusqu'à la frontière et au sud jusqu'à l'autre côté du fleuve jaune, sur 10 foyers, il n'y en avait guère qu'un qui ait réchappé. En 1644, la peste bubonique fait rage. Les victimes développaient d'abord une grosseur dure sur les aisselles ou entre les cuisses, ou bien crachaient du sang et mouraient avant d'avoir eu le temps de prendre des remèdes. Même les amis et les parents n'osaient pas demander de nouvelles des malades ou venir présenter leurs condoléances. Des familles entières ont été décimées sans que personne ne puisse les enterrer. Le résultat final fut la chute de la dynastie Ming. En raison de la violence, de la famine et de la peste, la Chine a perdu environ 50 millions M entre l'apogée de Ming et le début de Qing. En résumé, le petit âge glaciaire a été le catalyseur d'une terrible crise en Chine. Le rebond démographique allait suivre rapidement durant le règne de Qing et l'arrivée de nouvelles cultures en provenance des Amériques, maïs, pommes de terre, capables de nourrir une population en forte croissance. Mais la crise climatique du XVIIe siècle a profondément marqué le cours de l'histoire chinoise. Comparons le sort de la Chine à celui de l'Empire ottoman, un rival beaucoup plus récent dans le jeu de la grande géopolitique. À cet égard, nous pouvons suivre les travaux de notre invité au séminaire Sam White, qui a retracé l'impact du changement climatique de manière méticuleuse. Les Ottomans ont été l'un des rares peuples à construire un empire au cours du petit âge glaciaire, du moins dans sa première moitié. Les Ottomans sont devenus une grande puissance au XVe et XVIe siècle. L'empire ottoman est un géant sur le plan commercial. La population augmente, à tel point qu'à la fin du XVIe siècle, une forte pression démographique s'exerce sur la région centrale, notamment l'Anatolie. Des signes de tension, famine, épidémie majeure apparaissent dans les derniers quarts du siècle. La rivalité coûteuse entre les Ottomans et les Habsbourg dans le nord sollicite toujours plus de ressources. Puis, dans les années 1590, alors que le petit âge glaciaire battait son plein, la famine due au climat a déclenché des révoltes et des guerres. La pire sécheresse du dernier demi-millénaire se produit en 1590. Parfois, les choses ne sont pas très compliquées. Il n'y avait pas d'eau. Sans eau, pas de nourriture. Les animaux furent décimés. La population migrait et se déplaçait désespérément à la recherche de nourriture. Les révoltes de Selali, ont été la manifestation la plus évidente de ces problèmes. White et d'autres ont démontré de manière convaincante que la crise climatique, associée à la pression démographique et aux tensions géopolitiques, a déclenché les révoltes et que cette crise majeure a marqué un tournant décisif dans les destinées des Ottomans. Le sort de l'Italie pendant le petit âge glaciaire présente à la fois des parallélismes et des oppositions avec l'histoire ottomane. L'Italie était bien sûr une mosaïque des cités-états, des territoires papaux et des possessions impériales. Cependant, au cours des siècles qui ont suivi la peste noire, l'Italie du Nord devint la région la plus dynamique d'Europe, voire du monde, tant sur le plan économique que culturel. Les banques, les manufactures et les commerces ont alimenté une économie urbaine qui a nourri les réalisations artistiques et scientifiques de la Renaissance. Après que la première partie du petit âge glaciaire se soit un peu calmée à partir des années 1460, la population de l'Italie a connu une croissance rapide. Le XVIe siècle a également été une sorte de répit pour la peste bubonique. La peste noire a été suivie de plus d'un siècle d'épidémies dévastatrices qui se sont ensuite calmées pendant un certain temps. La démographie d'Italie est en hausse en dépit du fait que l'Italie est le théâtre des guerres de grande ampleur, notamment parce que le roi d'un certain pays dont nous tairons le nom ne cesse pas de l'envahir. Dans les années 1580, la population était probablement proche des limites écologiques de l'Italie. Selon l'historien de l'économie Guido Alfani, la croissance démographique s'est achevée vers 1585. La population atteigne une sorte de plafond infranchissable. La capacité limite de l'environnement de l'Italie du Nord a donc été éteinte précisément au moment où le petit âge glaciaire atteignait sa phase la plus froide et où le risque d'un climat nuisant aux cultures était accru. Puis, au printemps 1590, le nord de l'Italie subit de terribles inondations les champs de blé sont en proie aux moisisseurs. On rapporte que cet été-là, au moins dans certaines régions du Nord, la récolte ne représentait qu'un tiers de ce qu'elle avait été l'année précédente. Les réserves finirent par s'épuiser. Malheureusement, les 12 années suivantes furent également marquées par des bouleversements climatiques extrêmes. Ainsi, la série de mauvaises récoltes se poursuivit jusqu'en 1593. Alfani parle de cette période comme la pire famine qui ait connu l'Italie du Nord au cours de la période médiévale tardive ou moderne précoce. Les pires conséquences se produisirent dans les basses terres du Nord, la vallée du Pô, le grenier à blé de l'Italie. La malheur conduisit à la violence et à la révolte. La mortalité est difficile à estimer, mais on sait qu'elle a été très élevée. Dans l'ensemble, cette crise a également favorisé une évolution sur le plan institutionnel, en particulier en matière de protection sociale, qui a coïncidé avec la nouvelle législation sur les pauvres en Angleterre, évoquée dans ma conférence sur la famine, et qui a permis à l'Italie du Nord d'être mieux préparée aux épreuves à venir. Malheureusement, il n'a fallu qu'une génération pour que le nord de l'Italie en frappé par une crise encore plus grave. Cette fois, c'était la peste dans le rôle principal. De 1629 à 1631, la peste bubonique fait rage. Si vous connaissez la littérature italienne, vous reconnaîtrez rapidement qu'il s'agit de la peste de Manzoni, la toile de fond inoubliable de son roman « Le fiancé ». Manzoni connaissait bien son sujet. L'épidémie a été dévastatrice. On ne sait toujours pas très bien pourquoi. L'Italie était le théâtre périphérique de la guerre des 30 ans. Le stress climatique avait affaibli la population. Comme toujours, il y a probablement une histoire cachée de rongeurs quelque part, ces hôtes et vecteurs de la peste qui pullulent pendant la guerre et les 17. Mais les administrations civiles et les institutions sanitaires publiques d'Italie figuraient parmi les plus avancées de toute l'Europe. Malgré cela, cette épidémie a été la plus grave depuis la peste noire. Elle s'est répandue dans les villes et les campagnes, avec des graves conséquences démographiques. À Milan, la population fut décimée. Cet épisode souligne l'importance de considérer la peste noire comme le début de la deuxième pandémie de peste, une période de plusieurs siècles, au cours de laquelle la peste bubonique est restée la maladie la plus explosive. Alfani s'est efforcé de démontrer de manière convaincante que ce choc démographique a porté éteinte durablement à la place qui occupait l'Italie à l'avant-garde du développement économique en Europe. Cela a joué un rôle important dans le phénomène de la petite divergence, l'accélération de la croissance dans le nord-ouest de l'Europe. Au cours du XVIIe siècle, le centre du dynamisme s'est déplacé de la Méditerranée vers le nord de l'Europe, notamment vers l'Angleterre et le Plat Pays. Sans exagérer, on peut voir que notre ami Cassini incarne cette évolution historique, car il a commencé sa carrière dans le nord de l'Italie et l'a terminée à Paris. Les parallèles entre la Chine de la fin de Ming, l'Empire ottoman et l'Italie du Nord sont frappants. Pour un contraste utile, je choisis d'évoquer l'exemple de Plat Pays. L'histoire des habitants de cette région au cours du petit âge glaciaire est radicalement différente. Dagomar de Groot nous en donne la preuve dans ses ouvrages, dont le Frigid Golden Age de 2018, qui constitue un grand classique de l'histoire du climat et de la société. Paradoxalement, ce sont les peintures des maîtres hollandais qui nous livrent les images indélébiles d'une Europe étrangement froide. Mais l'histoire que racontent ces peintures est plus complexe qu'il n'y paraît, car elle reflète la persévérance, l'ingéniosité et la solidarité, plutôt que la résignation et la souffrance. Grâce à l'écologie unique de basse terre et la culture maritime, les habitants de Plat Pays ont eu la chance de bénéficier de certains avantages lorsque la terre s'est refroidie. Leur sécurité alimentaire dépendait depuis longtemps des céréales de la Baltique, et cette dépendance s'est avérée une chance. Même les régimes atmosphériques dominants associés au petit âge glaciaire ont favorisé les marins des plats pays dans les commerces et la guerre. Mais ce n'est pas tant la chance qui a joué, c'est que les pays ont souffert de leur sort. Les innovations technologiques ont permis aux pays de prospérer dans des conditions difficiles. Ceci dit, l'adaptation et l'esprit de solidarité de la société de pays étaient tout aussi importants, alors qu'une grande partie de l'Europe et des Amériques coloniales se lançaient dans la chasse aux sorcières en période de trouble. Les pays fortement urbanisés ont cessé de chercher de boucs émissaires en cas de difficulté à partir des années 1590. Au début du XVIIe siècle, la population de pays était sans doute la plus alphabétisée dans la planète. Ainsi, une société précoce a vu le jour, ce que l'on appelait la première économie moderne. L'un des signes de la maturité de la société est l'absence de crises graves. Il est possible qu'elle ait échappé l'ancien cycle de famine des années 1550. Il serait aisé de compléter ce tableau avec d'autres cas de crise et quelques cas de réussite, comme les pays, par exemple l'Angleterre et le Japon. Le petit âge glaciaire a eu des effets véritablement mondiaux qui se sont étendus des colonies d'Amérique du Nord à l'Afrique subsaharienne et à l'Asie du Sud. Ce qui m'y frappe, en tant qu'historien spécialisé dans le petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive, ce sont à la fois les ressemblances et les différences entre ces périodes. Des nombreuses dynamiques relatives à l'interaction entre le climat et la société semblent très proches. Il y a érosion de la résilience, ce qui conduit à la catastrophe. Le climat exerce une pression simultanée sur les systèmes politiques, fiscaux et sanitaires, aggravant les risques jusqu'à l'effondrement. Sans compter que le climat a une fâcheuse tendance à déclencher des dysfonctionnements contagieux, qu'il s'agisse de la guerre ou de la peste. En revanche, les différences sont encore plus frappantes. Le petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive, à la fin de l'Empire romain, a mis à mal de nombreuses sociétés et a profité à certains d'entre elles. Mais il n'y a eu nulle part, à la suite de cette période, de croissance soutenue, de progrès décisifs qui auraient permis d'échapper au piège malthusien. En fait, c'est le contraire qui s'est produit, c'est-à-dire une période de recul. La désignation « l'âge des ténèbres » n'est plus en vogue, mais en Europe et en Asie occidentale, le 7e siècle a été un désert en matière d'alphabétisation, de découvertes scientifiques et même de préservation des connaissances qui avaient été acquises dans le passé. Le 17e siècle est bien différent. Les historiens et les économistes ont débattu sans fin du pourquoi et du quand la transition vers la modernité. Pourquoi certaines sociétés ont-elles réussi à atteindre une croissance économique continue? Pourquoi cela s'est produit en premier en Europe occidentale, entraînant ce que l'on appelle la grande divergence? Au XVe siècle, on aurait certainement pu s'étendre à ce que la Chine devient le pays de la transition moderne. Mais c'est finalement le nord-ouest de l'Europe qui a été le théâtre de cette transition. Mais pourquoi? Permettez-moi de partager quelques observations finales sur ce thème que nous reprendrons la semaine prochaine. Le premier volet, la cause. J'ai joué carte sur table au début de ma conférence, mais la principale cause de l'essor de l'humanité sur le long terme est la croissance du savoir sur le monde naturel et la traduction de ces connaissances en technologies de production. Pendant des millénaires, l'expansion de l'humanité a été lente et parfois sujette à des revers catastrophiques. La raison en est que le progrès scientifique et l'innovation technologique ont été lents, discontinus et fragmentés. La croissance est bien sûr le résultat de différents facteurs et il existe de nombreux facteurs immédiats qui déterminent quand et où la croissance se produit, la culture, les institutions, la géographie. Mais la croissance en tant que telle est le résultat de la connaissance et de l'innovation. À cet égard, le XVIIe siècle est un réel tournant à plusieurs égards, et en particulier la période qui suit 1650. Tout d'abord, l'essor d'un nouveau type de science, la nouvelle science incarnée par Francis Bacon ou René Descartes, est empiriste. Elle rejette l'autorité et les dogmes au profit de l'observation et de l'expérimentation. Elle était également mathématique, attachée à la précision, aux mesures, à la quantification et aux modèles. Cassini, en est bien sûr une figure de cette évolution. La révolution scientifique est également le produit de nouvelles institutions, telles que les académies royales, grâce auxquelles des observations comme celle de Cassini sont rapidement diffusées. La République des lettres s'est développée, permettant aux idées et aux découvertes de se répandre rapidement. Des revues scientifiques voient le jour pour la première fois, le Journal de Scavens, de savants, ici à Paris, datant de 1665. Une culture scientifique et une admiration pour les sciences commencent à voir le jour, quoique lentement. Comme l'a remarqué un historien, cette transformation des mentalités s'est illustrée par le contraste entre la condamnation de Galilée et l'adoubement d'Isaac Newton. Enfin, la traduction de la science en innovation technologique a été facilitée par le respect que l'on éprouvait envers les connaissances utiles. C'est la conjugaison de la science pure et de la science utilitaire, ce que nous appellerions la recherche fondamentale et la recherche appliquée, qui a fait la plus grande différence. La mécanique newtonienne s'est traduite par des machines capables d'exploiter de nouvelles sources d'énergie pour effectuer un travail utile. Passons au deuxième volet, le moment. Les historiens et les économistes ont également débattu la date de passage à la croissance moderne. De manière générale, certains accordent une grande importance de la longue route vers la révolution industrielle, à la période moderne précoce dans la transition vers un régime de croissance moderne. Tandis que d'autres insistent sur une date plus tardive et sur la nature plus soudaine de la transition vers une économie fondée sur le combustible fossile, au 19e siècle. Sur ce thème, les débats sont intéressants parce que la question est réellement complexe. Mais permettez-moi de me ranger du côté des partisans de la longue route et de souligner l'importance des siècles du petit âge glaciaire. C'était l'époque de ce que John Brooke a judicieusement appelé l'Anthropocène organique. À de nombreux égards, les limites écologiques et énergétiques de la croissance ont été éteintes et repoussées. On a assisté à la très forte intensification de l'agriculture, marquée par la diffusion de la pomme de terre et du maïs. L'exploitation du bois et d'autres ressources naturelles a explosé. L'utilisation du charbon a explosé dans l'Angleterre du début des temps modernes, bien avant la machine à vapeur. L'urbanisation et l'alphabétisation ont progressé pendant des siècles. La révolution industrielle et le passage à la croissance moderne dépendant du carbone fossile étaient la conclusion quasiment inévitable de siècles de développement et d'intensification. Il s'agissait seulement de savoir quand et où, non pas si. En fait, nous devrions garder en tête que ces siècles ont coïncidé avec le climat les plus difficiles de l'histoire de la civilisation humaine, le petit âge glaciaire. Ce climat menaçant a constitué un revers qui a pu masquer certains des progrès matériels qui ont pu avoir lieu. Le passage à la modernité aurait pu se faire encore plus vite sans le vacillement du soleil et le tussautement de volcans. Et enfin, la dissociation. L'un des premiers signes de la transition vers le monde moderne n'est peut-être pas l'augmentation des salaires, mais la fin de l'emprise des calamités climatiques de l'ancien régime. Les Hollandais et les Anglais ont ouvert la voie, suivis de près par la France. La famine fait désormais partie du passé. Il y a encore des pénuries alimentaires, mais pas d'épisodes de mort massive en raison de la disette dans ces sociétés. Malheureusement, les guerres se poursuivent, mais le lien avec le climat s'estompe. Quant aux maladies, elles perdent lentement, très lentement, le lien avec le changement climatique dans les sociétés développées, alors même que l'ampleur des plus grands épisodes de mortalité diminue. J'ai expliqué en détail l'importance de ces processus qui commencent à partir de la fin du XVIIe siècle, sous l'imposition de la science empirique et de la santé publique. Des États plus forts, des programmes politiques plus efficaces, la diffusion des connaissances, le rejet des dogmes au profit de l'expérimentation, tout cela a permis de réduire l'incidence de la mortalité sévère, d'abord dans le cas de la peste, puis pour d'autres maladies. Cela s'est produit alors même que le réservoir de maladies posait davantage de problèmes avec l'apparition d'agents pathogènes virulents comme la variole, le typhus et bientôt le choléra. Un autre résultat de ces processus a été l'écart en termes de richesse et de pouvoir entre les États européens et le reste du monde. qui a été confronté aux défis d'empires européens lourdement armés et aux turbulences d'une planète plus instable. J'ai évoqué l'exemple du choléra en passant, et permettez-moi de conclure avec lui. En 1815, le volcan Tambora est entré en éruption. La planète s'est refroidie subitement. C'est la plus grande éruption de l'histoire récente. C'était le dernier spasme du petit âge glaciaire, du moins à certains égards. De mauvaises récoltes s'ensuivirent dans le monde entier. Mais l'Europe évita la famine qui avait frappé l'ancien régime. Immédiatement après, le choléra est apparu, un nouvel agent pathogène. Une bactérie qui provoque une maladie gastro-entérique, très contagieuse, et se propage par l'eau contaminée, pas de matière fécale. Elle provoque une maladie effroyable qui peut tuer avec une rapidité inégalée. La terreur qu'elle a suscitée en Europe est bien documentée. Mais en fait, l'Europe a été épargnée par les effets les plus dévastateurs des pandémies de choléra. L'agent pathogène est né dans le delta du Gange et s'est propagé à partir de la ville de Calcutta, sous contrôle britannique. Tous les ingrédients étaient réunis pour une catastrophe telle que celle qui a marqué le petit âge glaciaire. Mais en fait, l'impact mondial inégal de ce nouveau fléau montre à quel point le monde avait changé. En Grande-Bretagne, entre la première épidémie de choléra et la fin de la Seconde Guerre mondiale, le choléra a tué quelque 130 000 personnes. En Inde, au cours de la même période, la maladie a emporté environ 38 millions d'âmes. Lorsque le Tambora est entré en éruption, l'Europe traversait encore la dernière période du petit âge glaciaire. Mais elle ne ressemblait guère à l'Europe à ses débuts. L'anthropocène organique avait été transformateur. Mais le deuxième grand changement, l'ascension de l'humanité au rang de force géologique, ne faisait que commencer. L'anthropocène organique a cédé la place à l'anthropocène minérale, dont l'issue est encore incertaine. À suivre. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.